vers Rouen.
Le roi Jean s'en fut effectivement à Gisors, mais il n'y resta que le temps de prendre 100 piquiers de la garnison. Puis, il partit bien ostensiblement par la route de Chaumont et de Pontoise, afin que chacun pût croire qu'il rentrait à Paris. Il emmenait avec lui son second fils, le duc d'Anjou, et puis son frère, le duc d'Orléans, lequel paraît plutôt comme un de ses fils, car Monseigneur d'Orléans, qui a 20 ans, en compte 17 de différence avec le roi, et seulement 2 avec le dauphin. Le roi s'était fait escorter du maréchal d'Audrehem, de ses seconds chambellans, Jean d'Andrizel et Guy de la Roche, parce qu'il avait expédié à Rouen quelques jours plus tôt Loris et Nicolas Braque, sous le prétexte qu'il les prêtait au dauphin pour veiller aux préparatifs de son banquet. Qui avait-il encore derrière le roi? Oh, il avait bien constitué sa troupe. Il emmenait les frères d'Artois, Charles et l'autre, mon cousin Jean, qui lui collait à la croupe et dépassait de la tête toute la chevauchée, et encore Louis d'Harcourt, qui était en brouille avec son frère et son oncle Godefroy, et tenait à cause de cela le parti du roi. Je vous passe les écuyers de chasse et les veneurs, les corquillerets, huets des ventes et autres mots des tours. Dame, le roi allait chasser et voulait en donner l'apparence. Il montait son cheval de chasse, un napolitain vite, brave et bien embouché qu'il affectionne particulièrement. Nul ne pouvait s'étonner qu'il fût suivi des sergents de sa garde étroite, commandés par 2 gaillards fameux pour la grosseur de leurs muscles, Enguerrand l'Allemand et Périnet le Buffle. Ces deux-là vous retournent un homme rien qu'en le prenant par la main. Il est bon qu'un roi ait toujours autour de lui une garde rapprochée, le Saint-Père à la sienne. J'ai mes hommes de protection, moi aussi, qui chevauchent au plus près de ma litière, comme vous avez dû vous en aviser. Je suis tellement accoutumé à eux que je finis par ne plus les voir, mais eux ne me quittent pas des yeux. Ce qui eût pu surprendre, mais il aurait fallu avoir le regard bien ouvert, c'était que les valets de la chambre, sans doute Tassin et Poupard le barbier, portaient pendus à leur selle le haume, la cervelière, la grande épée, tout le harnais de bataille du roi. Et puis aussi la présence du roi des Ribauds, un bonhomme qui se nomme Guillaume je ne sais plus quoi, et qui non seulement veille à la police des bordels dans les villes où le roi réside, mais est chargé de la justice directe du roi. Il y a davantage de travail dans cette charge depuis que Jean II est au trône. Avec les écuyers des ducs, les varlets, les domestiques de tous ces seigneurs et les piquiers embarqués à Gisors, cela faisait bien 200 cavaliers, dont beaucoup hérissés de lances, un bien gros équipage pour aller buissonner le chevreuil. Le roi avait pris la direction de Chaumont en Vexin, mais jamais on ne le vit passer dans ce bourg. Sa troupe s'évanouit en route comme par un tour d'enchanteur. Il avait fait couper à travers la campagne pour remonter droit au nord, sur Gournay-en-Bray, où il ne s'attarda guère, juste le temps de prendre le comte de Tancarville, un des rares grands seigneurs de Normandie qui soit resté de ses féaux, parce qu'il est comme chien à chien avec les d'Harcourt. Un Tancarville stupéfait, car il attendait là, entouré de 20 chevaliers de sa bannière, le maréchal d'Audrehem, mais nullement le roi. « Mon fils le dauphin ne vous avait-il pas convié demain à Rouen, messire comte ?»« Oui, sire, mais le mandement que j'ai reçu de messire le maréchal, qui venait inspecter les forteresses de ce pays, m'a dispensé de paraître dans une compagnie où beaucoup de visages m'auraient fort déplu. Eh bien, vous irez quand même à Rouen en Tancarville, et je vais vous instruire de ce que nous y allons faire. Sur quoi, toute la chevauchée pique vers le sud, dans la nuit tombante, une petite trotte, 3 ou 4 lieues, mais qui s'ajoute aux 18 parcourus depuis le matin, pour aller dormir dans un château fort bien écarté, en bordure de la forêt de Lyons. Les espies du roi de Navarre, s'il en avait par là, devaient être bien en peine de lui dire où courait le roi de France, sur ce chemin haché, et pour y quoi faire. On a vu le roi qui partait chasser. Le roi est à inspecter les forteresses. Le roi était debout avant l'aurore, plein de hâte et de fièvre, pressant son monde, et déjà en selle pour foncer, cette fois au plus droit, à travers la forêt de Lyons. Ceux qui voulaient manger un quignon de pain et une tranche de lard durent le faire d'une main, les rênes au creux du bras, de l'autre main tenant leur lance, tout en trottant. Elle est dense et longue, la forêt de Lyons. Elle a plus de 7 lieues, et pourtant en 2 heures on l'a presque traversée. Le maréchal d'Audrehem pense qu'à ce train-là on va arriver sûrement trop tôt. On pourrait bien s'arrêter un moment, ne serait-ce que pour laisser pisser les chevaux, sans compter que pour sa propre part, c'est le maréchal lui-même qui me l'a raconté. Une envie, que votre éminence me pardonne, à me couper les flancs. Or, un maréchal de Lost ne peut tout de même pas se soulager du haut de sa monture, comme le font les simples archers quand le besoin les presse, et tant pis s'ils arrosent le cuir de l'arçon. Alors je dis au roi, sire, rien ne sert de tant se hâter, cela ne fait pas avancer plus vite le soleil. En plus, les chevaux ont besoin de faire de l'eau. Et le roi de me répondre, « Voici la lettre que j'écrirai au pape pour expliquer ma justice et prévenir les mauvais récits qu'on pourra lui faire. Trop longtemps, très Saint-Père, les mansuétudes et accommodements que j'ai consentis par douceur chrétienne à ce mauvais parent l'ont encouragé à forfaire, et à cause de lui sont venus méchefs et malheurs au royaume. Il en a prêté un plus grand encore en me déprivant de la vie, et c'est pour prévenir qu'il accomplisse ce nouveau crime, et pis qu'avant, sans s'apercevoir de rien, qu'il est sorti de la forêt de Lyons, qu'il a débuché en pleine, qu'il est entré dans une autre forêt. Audrey m'a dit qu'il ne lui avait jamais vu tel visage, l'œil comme fou, son lourd menton trémulant sous la maigre barbe. Soudain, Tancarville pousse sa monture jusqu'à la hauteur du roi pour demander à celui-ci, bien poliment, s'il a choisi de se rendre à Pont de l'Arche. « Mais non, crie le roi, je vais à Rouen !»« Alors, sire, je crains que vous n'y parveniez pas par ici. Il lui fallut prendre à droite, à la dernière patte d'oie. » Et le roi de faire demi-tour sur place à son cheval napolitain et de remonter au galop toute la colonne, en commandant un grand coup de gueule qu'on le suive, ce qui ne s'accomplit pas sans désordre, mais toujours sans pisser, pour la grand-peine du maréchal. « Dites-moi, mon neveu, ne sentez-vous rien dans notre allure ?»« Eh bien, moi si. Brunet ! Holà, Brunet ! Un de mes sommiers boite. Ne me dites pas non, monseigneur, et regardez. Celui d'arrière. Et je pense même qu'il boite de l'antérieur droit. Faites arrêter. Et alors ? Ah, il se déferge. Et de quel pied ? Alors, qui avait raison ? J'ai les reins plus éveillés que vous n'avez les yeux. Allons, Archambault, descendons. Nous ferons quelques pas, tandis qu'on va changer les chevaux. L'air est frais, mais point méchant. Qu'apercevons-nous d'ici ? Le savez-vous, Brunet ? Saint-Amand puisé. C'est ainsi, Archambault, que le roi Jean dut apercevoir Rouen le matin du 5 avril.